Radio Kapi.
Noëlla Louzitu Kabambi à la présentation. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. Recommandation du chef de l'État aux membres du gouvernement qui ont participé au séminaire qui s'est clôturé hier ici à Kinshasa. Le chef de l'État congolais veut que les enseignements tirés lors de ces travaux écoulés sous forme de pacte d'engagement citoyen soient appliqués au quotidien pour obtenir des résultats. Le manque ou l'insuffisance des mesures d'hygiène dans la vente des légumes risque d'amplifier l'épidémie de choléra au Kasaï oriental. Le responsable de service de l'hygiène publique dans cette province affirme que les mesures sont déjà prises pour mettre fin à ces pratiques. L'invité de ce journal s'appelle Prince Muganza. Il est ingénieur et président du conseil d'administration de la coopérative agro-pastorale Eden dans la province du Maniema. Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, sachez tout d'abord que le procès public contre le chef du groupe armé Alliance Fleuve Congo AFC et ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, s'est ouvert aujourd'hui à Kinshasa. 25 autres prévenus sont aussi poursuivis pour rébellion contre la République. 5 prévenus comparaissent alors que les autres sont en fuite selon l'acte d'accusation lu par le président de la Cour militaire. Corneille Nangaa et ses co-accusés sont poursuivis pour crimes de guerre, participation à un groupe criminel et trahison. Il leur est reproché d'avoir créé un groupe armé qui combat l'armée régulière aux côtés de l'armée rwandaise. Le procureur militaire a invité la Cour militaire de Kinshasa-Gombe à juger par défaut les prévenus absents à l'audience pour raison de fuite. Le président de la Cour a fait acter cette demande du parquet militaire afin de juger les absents par défaut. L'épouse de Corneille Nangaa, Yvette Lubanda-Nazinda, en exil en Europe, est également poursuivie par la justice militaire pour trahison, crime de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Elle est sur la liste de 25 prévenus jugés depuis ce mercredi. La première audience du procès public de Corneille Nangaa a été ouverte en présence du ministre de la Justice, Constant Mutamba, et du chef du parquet militaire congolais, Jean-René Likulia. Le procès se déroule à la prison militaire de Kinshasa, dans le quartier Ndolo. Clôture hier au Palais de la Nassau du séminaire gouvernemental. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est la recommandation du chef de l'État aux membres du gouvernement qui ont participé à ce séminaire. 13 autres recommandations ont aussi été formulées et des lettres de mission ont été émises à chacun des membres du gouvernement. Pour le président de la République, les enseignements tirés de ces travaux écoulés sous forme de pacte d'engagement citoyen doivent être appliqués au quotidien dans l'objectif d'obtenir des résultats. On écoute un extrait de son discours de clôture de ce séminaire, lu par la première ministre Judith Suminwa, extrait proposé par Pélé Kipelamondo.
Nous sommes à un tournant de notre histoire. Le monde regarde vers l'Afrique et vers notre pays avec espoir et attente. Nous avons l'opportunité de montrer au monde ce que signifie pour la République démocratique du Congo être un pays solution. Plus que jamais, donnons un sens à notre hymne national debout congolais. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs.
Toujours à Kinshasa, l'ambassade des États-Unis dans la capitale congolaise annonce des sanctions contre un réseau de 3 individus associés à l'organisation État islamique en Afrique. Washington accuse Aboubakar Swaleh, Zaïd Gangat et Hamida Nabagala de financer les activités de l'État islamique dans plusieurs pays d'Afrique, dont la République démocratique du Congo, où le groupe terroriste opère sous le label des ADF. D'origine ougandaise et affiliée à l'organisation État islamique, les ADF, je vous le rappelle, mènent régulièrement des attaques contre les civils, causant des centaines de victimes dans le territoire de Beni et en Ituri, dans l'est de la RDC. Ces djihadistes sévissent en RDC et mènent parfois des incursions jusqu'en Ouganda, malgré l'action conjointe des forces armées des deux pays. Pendant ce temps, au Nord Kivu, la société civile du territoire de Nyiragongo exprime son inquiétude face à la montée de l'insécurité impliquant des hommes armés. Le rapporteur général de cette structure citoyenne réagit ainsi au lendemain de l'arrestation hier à Munigi de deux autres jeunes garçons détenant une arme de tireur d'élite à Morambi. Cette même journée, deux autres présumés cambrioleurs armés ont été lynchés par les habitants dans la même entité. Thierry Guissi-Siro plaide pour le renforcement des mesures de sécurité dans cette zone. Écoutons-le ici dans ses propos recueillis par Bernard Anyangi.
Suite à une étroite collaboration civilo-militaire, c'est mardi dans le village Murambi, non loin de la frontière avec le Rwanda, groupement Munigi, territoire de Nyiragongo, deux bandits ont été interceptés après une dénonciation de la population qui portait dans leur sac où ils camouflaient une arme et plusieurs chargeurs et autres effets militaires. Nous estimons ici qu'il est temps maintenant que les autorités puissent approfondir les enquêtes pour savoir à ces heures-là de 15h, ces deux jeunes hommes-là qui camouflaient une arme dans un sac à dos et juste à la frontière avec les Rwandais, quelle était leur motivation. Nous voudrions ici encourager la population à avoir cette culture de dénonciation. Nous appelons ici maintenant la justice de se saisir de ces dossiers pour que la lumière soit établie et que tous ceux qui seraient impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette situation d'insécurité, qu'ils puissent répondre de leurs actes.
Toujours au Nord Kivu, des structures des jeunes des Beni plaident pour une collaboration entre le gouvernement, la MONUSCO et la société civile pour le rétablissement de la paix dans la région de Beni. Elles ont fait cette recommandation hier au cours d'un café politique organisé par Génération Positive, une organisation locale des jeunes qui œuvre pour la promotion de la paix. Le café politique a été organisé avec l'appui de la section des affaires politiques de la MONUSCO. Les participants se sont également engagés à sensibiliser les communautés pour leur implication dans la recherche de la paix dans la région de Beni. Diana Numbi, membre du Parlement des jeunes de Beni, est l'une des participantes. Elle explique au micro de Guylaine Kassassia.
Tout ce que les jeunes disent, ce n'est pas à rejeter. Parce que les jeunes ont quelques vérités ou quelques réalités que peut-être le gouvernement ou son partenaire ne connaît pas encore jusqu'ici. Ce qui reste pour que l'engagement de la jeunesse soit complet, il faut que chacun de son côté puisse prendre ses responsabilités à main pour que cette paix que nous demandons ne soit plus une illusion. Il faudra aussi qu'il y ait cohésion sociale entre les jeunes, la société, les Nyumbakumi. Et ailleurs, ça s'est fait. Mais ici, nous sommes étonnés du fait que ça ne s'est fait pas. Parce qu'il y a des fois, il y a quelqu'un, il vient dans les quartiers. Les voisins ne seront même pas intéressés de chercher à savoir d'où vient cette personne, qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie d'avant, qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc nous sommes tellement désintéressés comme si la paix est une question qui devrait seulement intéresser d'autres personnes et pas nous. Nous, en tant que jeunes, venons de participer au café politique. Nous ferons tout de notre possible pour que les Nyumbakumi, les chefs de quartier et autres, soient sensibilisés pour le retour de la paix.
Dans la province de l'Ituri, plus de 30 000 enfants âgés entre 5 et 15 ans ont été vaccinés contre la rougeole pendant 5 jours dans la zone de santé de Mangala dans le territoire de Djougou. Objectif de cette campagne, selon le médecin-chef de la zone de santé de Mangala, c'est de lutter contre la rougeole qui affecte de nombreux enfants dans cette région. Docteur Jacques Savo ajoute que cette activité, appuyée par l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF Suisse, se poursuit pour la récupération d'autres enfants non encore vaccinés. Il est joint par Martial Kizabiamongo.
C'est que nous avions vacciné en septembre les enfants contre la rougeole et beaucoup d'enfants ont été vaccinés. C'est pourquoi vous voyez, on n'a pas beaucoup de décès liés à cette maladie. Et nous vaccinons aussi pour d'autres antigènes dans la zone santé. Oui, il y a environ 3 mois, nous avions commencé à notifier les cas de suspects de rougeole. Nous avions prélevé les échantillons qu'on a envoyés à une RB et certains résultats sont devenus IgM positifs. Et jusqu'à ce jour, nous avons autour de 600 notifiés et soignés et environ 60 enfants qui ont présenté des signes graves de la maladie. C'est ce qui justifie cette campagne dans la zone santé. Donc il fallait une riposte et actuellement nous sommes avec MSF Suisse qui nous a beaucoup aidé dans cette campagne avec cet appui-là.
Parlons encore santé. Dans la province du Kassai oriental, c'est le manque ou l'insuffisance des mesures d'hygiène dans la vente des légumes qui risque d'amplifier l'épidémie de choléra déclarée dans la province depuis près de 2 mois déjà. Les légumes sont étalés à même le sol. D'autres déjà préparés ainsi que d'autres aliments destinés à la vente ne sont pas couverts et ainsi exposés aux mouches et autres insectes porteurs de maladies. Le responsable de service de l'hygiène publique au Kassai oriental affirme que les mesures sont déjà prises pour mettre fin à ces pratiques. Depuis Mbujimaï, un reportage d'Esther Ndalafina.
Sur l'avenue Inga, au niveau du grand marché Bakwa Dianga, plusieurs femmes étalent les légumes, les aubergines, les oignons, ainsi que les tomates destinées à la vente sur des petits sacs en raffia. Cependant, Mami Mouika, vendeuse de légumes, ne se soucie pas d'autres légumes qui touchent les sols.
Oui, nous étalons à même les sols. Mais quand on achète, on va nettoyer et préparer. Le feu tue les microbes.
Selon José Kapinga, ces légumes sont étalés sur un tapis de sol imperméable.
Nous étalons les sachets au sol, puis les sacs. Nous attendons la saison des pluies pour construire les étalages.
Les acheteuses averties déplorent cette vente de légumes à même le sol.
Marché là, il y a des places qu'on a fait pour étaler les marchandises. Et elles refusent, elles aiment seulement étaler des choses par terre. On nous fait encore la maladie.
Docteur Didier Kazadi, responsable des services de l'hygiène publique, affirme que les mesures sont déjà prises pour mettre fin à cette situation.
Les brigadiers d'hygiène sont pratiquement au niveau des aires. Santé. Ce sont eux qui font le contrôle de tous ces aspects d'hygiène. Dès qu'il y a des moyens, donc on pourra recruter des jeunes gens parce que la plupart des brigadiers ont déjà pris de l'âge.
Signalons que le Kassai oriental est en épidémie de choléra depuis près de 2 mois avec plus de 30 cas. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Réunion sur le renouvellement de l'AGOA à Washington aux États-Unis d'Amérique. Le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, a été reçu hier au Congrès américain à Washington. Il a plaidé auprès des sénateurs et députés pour le renouvellement de l'AGOA qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane. Par ailleurs, au cours du panel organisé par le réseau des sociétés civiles africaines en collaboration avec Democracy Foundation for Africa, qui a réuni les parlementaires et investisseurs américains. Le ministre du Commerce extérieur congolais a détaillé la stratégie de l'AGOA RDC avec ses 26 produits, dont 21 non miniers et 5 miniers. On écoute Julien Paluku dans cet extrait proposé par Alain Irong.
Je suis venu maintenant ici aux États-Unis pour deux choses. La première, c'est de me joindre à toutes les voix des ministres africains du commerce pour qu'on puisse en fait faire un plaidoyer en faveur du renouvellement de la loi AGOA qui sera votée par le Congrès américain. Vous savez que si cette loi n'est pas votée, eh bien les produits d'origine africaine ne pourront plus entrer sur le sol américain avec des exemptions de paiement des douanes. Donc nous avons rencontré pour cela quelques congressmen, des députés et les membres de la Chambre des représentants pour que nous puissions les sensibiliser sur les avantages qu'offre cette loi AGOA, notamment un levier de la croissance économique, un outil, un instrument important de stabilisation et de paix en Afrique, mais également un outil d'intégration économique africaine. Et donc ces éléments-là, couplés à d'autres que nous avons défendus, nous permettront de voir d'ici là comment le Congrès américain va se comporter par rapport au renouvellement de cette loi.
Notez qu'avec un accompagnement de la société civile congolaise, le ministre du Commerce extérieur mène une diplomatie pour décrocher l'organisation à Kinshasa du Forum AGOA 2025, tel que le souhaite la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Toujours en économie, la régie des eaux Sud-Kivu en pleine phase de renforcement de ses équipements dans la ville de Bukavu. La station de pompage de Ngouba au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda est passée de 100 000 m3 par heure à 150 m3 par heure au mois de mars 2024. Cette société nourrit l'ambition de porter la production à 366 m3 par heure au cours du prochain trimestre. Des équipements neufs sont à la disposition de la régie des eaux pour atteindre ces objectifs-là. Jean Kassami.
Quasiment tous les matériels sont disponibles, affirme le directeur provincial de la régie des eaux Sud-Kivu. Une nouvelle pompe est contenue dans les lots du matériel récemment acquis par la régie des eaux. Ignace Ilunga rassure que ce nouvel équipement va assurer une nette amélioration et un changement dans les conditions de desserte en eau potable captée à partir de la rivière Ruzizi.
Là, nous sommes sur des travaux que nous venions de lancer pour porter cette capacité à 366 mètres cubes. 366 mètres cubes, ça pourra nous aider à résorber toutes les poches de manque d'eau que nous avons à Ngouba, à Mumba. À ce moment-là, avec les eaux que nous envoyons initialement à Ngouba en provenance de Murundu, nous pourrions améliorer la situation de certaines avenues comme Fizi, comme de la résidence, comme du gouverneur Mimosa. Donc tous nos abonnés qui sont dans cette zone sentiront une nette amélioration.
La régie des eaux a mobilisé sur fonds propres un montant de 320 000 dollars pour ces travaux. Elle recherche encore un financement de 1 500 000 dollars pour réaliser le projet de construction d'une station de pompage sur la Ruzizi. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, la Ligue des locataires pour les droits de l'homme, LILOC, a lancé hier dans la commune de Limété la campagne de vulgarisation de l'acte de bail sous seing privé. C'était devant les bailleurs, locataires et courtiers de Kinshasa. L'objectif poursuivi étant de favoriser un climat de paix et de compréhension mutuelle entre toutes les parties concernées par le bail. Le président de la LILOC, Jean-Jacques Benamei, explique la portée de cette campagne et l'acte de bail. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Et la portée d'abord, c'est la thématique générale, vulgariser la loi 15/25. Et le sous-thème, c'était le lancement de l'acte de bail sous seing privé, modèle unique, une initiative qui est prise par la Ligue des locataires pour faciliter la tâche aux locataires et aux bailleurs qui ne sont pas capables de produire un document pouvant leur permettre d'assurer la paix et le bien-être social. L'acte de bail sous seing privé, c'est un contrat, une convention. Une convention, mais la loi l'oblige que ça soit écrit. Donc un document qui est relatif à la loi, mais qui est écrit. Nous avons, sur base de ces données qu'on a eues sur terrain, concevoir un document qui peut influencer le bien-être et la paix sociale entre deux parties.
Actualité internationale. À l'étranger, le président kényan William Ruto a annoncé ce mercredi la nomination de 4 figures de l'opposition dans son gouvernement élargi. La nouvelle équipe gouvernementale a pour mission de tenter d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'un mois et qui a donné lieu à des manifestations meurtrières. Les 4 personnalités sont tous membres du parti de l'opposant historique Raila Odinga. Il s'agit de John Mbadi au ministère des Finances, James Opio-Mandai au ministère de l'Énergie et du Pétrole, Hassan Ali Joho au ministère des Mines et de l'Économie de la Mer et Wycliffe Oparanya au ministère du Développement des Coopératives et des PME.
L'invité.
L'ingénieur Prince Mugaza est notre invité. Il est le président du conseil d'administration de la coopérative agro-pastorale Eden dans la province du Maniema. Il nous parle de ce jeu de loterie que sa coopérative a organisé pour le lancement du programme accélérateur de création des petites entreprises dans la chaîne de valeur agro-pastorale où 222 personnes ont bénéficié des matériels et intrants agricoles afin d'encourager les gens à faire de l'agriculture. Prince Mugaza s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Prince Mugaza, bonjour.
Bonjour madame.
Dites-nous l'objectif de ces tombolas que vous venez d'organiser avec le producteur agricole aujourd'hui au Maniema.
L'objectif c'est la clôture de notre campagne que nous avons dénommée Zéro Ménage Sans Poulailler, Zéro Ménage Sans Potager, qui était marquée par cette tombola dans notre large activité qui consiste à appuyer les startups ou bien l'incubateur des entreprises dans la chaîne des valeurs agro-pastorales. C'est comme ça que nous avons invité les gens, les jeunes, les membres, les mamans aussi pour bénéficier des intrants, des matériels agricoles, des poussées, des couveuses, dans le sens de les encourager à faire d'avoir le goût sur l'entrepreneuriat dans la filière de l'agriculture et l'élevage ici dans la ville de Kindu. C'était 222 personnes les bénéficiaires et tout le monde vraiment avait été satisfait.
Quel a été le critère de sélection de ces bénéficiaires?
Non, on n'a pas tenu compte des critères. Nous avons juste appelé tout celui qui a la vision de faire de l'agriculture et venir chez nous, non seulement bénéficier de ce que nous avons distribué là, mais aussi d'une formation, parce que la formation aussi sera suivie par un accompagnement d'au moins 6 mois, juste afin que notre objectif de zéro ménage sans poulailler, zéro ménage sans potager puisse réellement être une réalité. Vouloir c'est que chacun produise ce qu'il mange et ce qu'il peut vendre aussi pour se faire des revenus par rapport à la production agricole ou bien pastorale telle que je viens de le dire.
Votre vision, vous voulez atteindre quel objectif en faisant tout ça vous générera?
Bon, la coopérative agro-pastorale Eden, notre objectif c'est juste limiter l'importation de certains aliments qu'on peut produire ici. L'importation des par exemple. exemple des tomates, des fruits, quelque chose qu'on produit facilement. La terre elle est fertile à Kindu et au Maniema en général, mais vous vous rendez compte que tout ce qu'on consomme presque vient d'ailleurs, de Kavugoma, et cela crée déjà la dépendance déjà dans la tête des consommateurs. Tandis que ici on peut produire aussi, et c'est dans ce sens-là nous voulons c'est que d'ici 6 mois ici à Kindu aussi, que les gens puissent commencer d'abord à consommer ce qu'ils ont produit par rapport à ce qu'il faut aujourd'hui, la dépendance, l'importation, ils importent presque tout ce qu'on consomme, presque sur le marché de Kindu, vient par avion, pendant que la population elle est là, elle peut produire, et dans le sens de stimuler les gens, comment ils peuvent aussi faire l'agriculture, l'élevage, même sur des petits lopés de terre, c'est là que nous avons lancé cette campagne. Et la campagne ira jusqu'en décembre, parce que c'est en décembre que nous allons organiser la première et la grande foire agricole, toujours pour stimuler les gens à investir dans l'agriculture, pour stimuler les gens à croire aussi que l'agriculture peut aussi faire des fortunes plus qu'elle mine même. C'est ça notre objectif, donner le goût à l'entrepreneuriat dans le secteur agricole. La série d'activités continue jusqu'en décembre. En décembre qu'on va organiser la grande foire agricole. Et les gens que nous avons accompagnés, vous les verrez en train d'exposer. Certains vont exposer les jus produits localement ici. D'autres vont exposer les poussées, les poulets qu'ils ont développés localement et plusieurs autres produits agricoles transformés ou produits localement. Vous les verrez parce que de ces 222 personnes, chacun a bénéficié d'un accompagnement personnel. Nos experts, nos agronomes suivent chacun dans son ménage jusqu'à ce qu'il fasse l'argent à travers la production des tomates. Je prends ça comme exemple.
Vous parlez aussi de la transformation des produits agricoles. Ici, au Maniema, il y a un sérieux problème du courant électrique. Comment allez-vous faire?
Certes, il y a le problème de courant électrique, mais les gens vivent. Courant électrique, c'est parmi les défis, comme aussi les routes aussi, c'est aussi un parmi d'autres problèmes que les producteurs agricoles rencontrent. Mais on s'organise quand même. Il y a les générateurs aussi qui sont là. Les gens produisent pas seulement les gens qui font l'agriculture, comme il y a des petites industries dans les bois ici qui travaillent avec de gros générateurs. Nous aussi, comme coopérative, nous allons travailler avec des moyens de bord en attendant, bien sûr, le rétablissement du système électrique, parce que on sait bien que comme il y a de nouvelles autorités qui commencent le boulot, j'espère que parmi leurs priorités, il y a aussi l'électrification de la ville. Mais en attendant, nous allons utiliser ce que nous avons toujours utilisé. Vous venez ici chez nous, on travaille avec des groupes, on travaille avec nos moulins qui ne dépendent pas du courant électrique. Et tout ça, nous parviendrons aussi à transformer ce que nous aurons, les céréales comme le maïs, ces moules de maïs, nous voulons produire ça ici. Le jus, et même le cacao aussi, on est dans la chaîne de valeur des cacao.
Qui vous appuie?
Nous ne sommes pas appuyés. Jusque-là, nous sommes une société coopérative. Et c'est une société de plus de 1000 membres. Il y a des parts sociales, il y a aussi bien sûr des cotisations. Nous sommes disciplinés plutôt dans la gestion. C'est-à-dire que ouais, nous réalisons beaucoup de choses sans aussi beaucoup attendre des financements, bien qu'on ne peut pas refuser les financements, mais nous avons notre santé financière qui dépend à 100% des parts sociales de nos membres et des produits que nous vendons sur le marché.
Monsieur Prince Muganza, merci.
Merci beaucoup, Madame Florence Kiza.
Et c'est la fin de ce journal sur Radio Kapi, l'édition de 15h, heure de Kinshasa, présentée par Noëlla Luzitu Kabambi et mise en onde par Billy Landry Betou. Merci à tous de l'avoir suivi. Place au sport à présent avec Vanessa Nkongolo.